RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules aujourd'hui. Laura Varton-Martinez, sophrologue, Charles Consigny, l'avocat, Barbara Lefebvre, l'enseignante. On va accueillir notre invité dans un instant, mais l'émission continue jusqu'à midi, ça vous en avez l'habitude. Et si vous l'avez raté, vous avez les podcasts à votre disposition, ça c'est sur l'appli RMC. Tout à l'heure, on reviendra sur le dossier Betaram, l'affaire Betaram. On va en reparler parce qu'il y a des propositions aussi que le secret de la confession peut-être soit levé. Que l'on sache aujourd'hui ce qui se dit auprès des prêtres. Est-ce qu'il faut lever le secret de la confession, oui ou non? On en parlera à midi moins 20. Mais en attendant, on va revenir sur les violences post-Paris Saint-Germain-Arsenal, post-titre champion d'Europe pour le Paris Saint-Germain.
RMC, face aux grandes gueules.
Avant d'accueillir Mathieu Vallée, le député européen Rassemblement National, l'ancien commissaire de police. Bonjour Mathieu Vallée.
Bonjour Alain Marchal.
On va écouter Laurent Nunes, le ministre de l'Intérieur.
La situation a été globalement sous contrôle. On a eu évidemment des débordements que vous avez toutes et tous notés, qui ont entraîné des troubles à l'ordre public, voire des violences urbaines, mais qui ont systématiquement été pris en compte par les forces de l'ordre. Systématiquement, il y a eu une réponse policière qui a été mise en place.
Globalement sous contrôle, vous êtes d'accord avec ça?
Non, mais vous savez, Alain Marchal, moi, je suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. Vous l'avez rappelé, j'ai été commissaire de police pendant 10 ans sur 21 ans de police. J'ai fait les gilets jaunes, j'ai fait les violences urbaines, notamment la Prenaëlle en juin 2023. J'ai été confronté aux terroristes islamistes sur les terrasses du petit Cambodge et du Carillon le 13 novembre 2015. Donc, c'est pas le but de faire moi ma vie, mon œuvre, ma guerre, mais je veux dire que j'ai de l'humilité. L'ordre public, c'est sérieux, c'est compliqué. Donc, la situation, si elle n'avait pas été contrôlée, bah, qu'est-ce que ça aurait été? En tout cas, ça a été une nuit d'enfer, une nuit d'insurrection, comme l'ont vécu les policiers et gendarmes nombreux avec qui discuté. Hier, j'étais sur le terrain auprès des escadrons de gendarmerie mobile et de compagnie CRS, notamment la CRS 8. Et donc, ils ont bien cravaché. Et je peux vous dire qu'avec 23 kilos de matériel en moyenne sur le dos, ils ont bien bossé et ils ont fait beaucoup d'interpellations.
Mais vous dites une nuit d'insurrection. Les mots ont un sens. Ce ne sont pas les mots employés par ceux qui nous gouvernent. Ils ne parlent pas d'insurrection. Laurent Nunes parle d'une situation globalement sous contrôle. Quand on utilise le mot chaos, il est rejeté par des ministres comme Roland Lescure. Donc, il faudrait peut-être déjà se mettre d'accord sur les mots.
Oui, tous ceux qui ont échoué en fait. Non mais la réalité, Olivier Truchot, c'est que quand vous avez 178 policiers et gendarmes blessés, vous appelez ça comment? Quand vous avez un policier de la BAC 75N qui sur l'avenue de la Grande Armée, qui part en fait de l'Arc de Triomphe jusque la porte Maillot, essaye d'interpeller un suspect avec ses frères d'armes de la 75N qui viennent leur tirer des mortiers, qui a un véhicule qui passe, les vidéos ont été diffusées par vos confrères de frontières, et qui se fait shooter comme une quille et que le conducteur s'arrête pas, qu'il est ivre et qui conduit malgré l'annulation du permis de conduire, et que personne n'en parle, et qu'il a failli laisser sa vie, et que le conducteur s'est même pas retourné savoir si le policier était encore en vie. C'est quoi ça? Quand vous avez deux policiers de la BAC 92N, la BAC de nuit, des Hauts-de-Seine, qui sont criblés de morceaux de métal parce qu'il y a des bois agricoles qui ont été jetés dessus. Vous appelez ça comment? C'est
pas
l'insurrection.
D'accord, vous voulez pas juger bien sûr vos collègues, je vous demande pas de les juger, mais
ah bah si, je les juge. Non, mais mes collègues ont été très bons, non, et comme d'habitude, ils ont fait preuve d'un courage remarquable.
On peut quand même juger du dispositif policier et de la stratégie.
Mais ceux qui font
le
dispositif, c'est les chefs, hein.
Ouais, attendez, oui,
c'est pas les policiers sur le terrain.
Pardon.
Et d'ailleurs, faudrait peut-être écouter les commissaires et les officiers de police sur le terrain qui eux sont les yeux et sont ceux qui maîtrisent bien les manœuvres.
22 000 policiers déployés partout en France, 8000 à Paris, c'était beaucoup plus que l'année dernière. Et pourtant, la violence a été plus importante.
Absolument.
Parce qu'elle n'a pas touché seulement Paris et sa région. 71 villes impliquées. Alors comment expliquer qu'on met plus de policiers et qu'il y a plus de violence? Pardon, je pense que tous les citoyens français s'interrogent.
Vous avez absolument. Mais en fait, le combat de la rue, c'est pas un combat arithmétique, c'est un combat stratégique. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait de différent? Mais faut être concret. Moi, j'ai quand même la prétention de savoir de quoi je parle.
Est-ce qu'il y a eu des consignes? Parce que certains de vos collègues, collègues syndicalistes nous disent en off.
Mais il y avait Linda Kebab sur vos confrères de BFM TV ce matin qui l'a précisé. Je l'ai écouté chez Apolline de Malherbe.
On nous a dit, vas-y mollo. Ça veut dire quoi?
Oui, il y avait, en fait, bah, moi non plus, je comprends pas. On leur disait, faites preuve de fermeté, interpellez, mais sans violence. Bah, d'abord, les policiers, c'est pas des brutes violentes, sans foi ni loi. C'est des policiers qui utilisent la force légitime qui leur est enseignée avec de l'armement qu'on va revenir dessus parce qu'on a un plan à proposer et que je dévoilerai en exclusivité sur votre antenne. Mais la réalité, c'est que, pourquoi les centaures de la gendarmerie qui ont été mis face aux gilets jaunes, face aux agriculteurs?
Les centaures, ce sont ces gros blindés.
Bah, tout le monde les connaît. C'est 100 blindés de la gendarmerie qui ont été achetés par le ministère de l'Intérieur et qui permettent de faire face à des situations insurrectionnelles.
Samedi.
Mais non, mais moi j'y suis allé sur les Champs-Élysées et dans les rues perpendiculaires samedi soir, vous aviez des fourgons de CRS et des fourgons d'escadron de gendarmerie mobile qui mobilisent des unités, qui mobilisent des hommes, qui en fait barraient des routes pour que l'avenue soit piétonnisée.
Ouais, mais mettons ces forces sur les points. Qu'est-ce que les centaures peuvent faire? Eh ben, très bon. Des petits groupes de jeunes qui vont super vite, très mobiles.
Je vous réponds à deux double titres, Olivier Marchal. Mais la réalité, c'est que Alain Marchal, pardon. Ce que je veux vous dire, c'est que les centaures de la gendarmerie auraient remplacé les fourgons de CRS que j'ai vus devant les boutiques et les magasins qui ont été pillés l'année dernière. C'est plus impressionnant, c'est plus
dissuadant.
Mais bien sûr. Et vous avez des gendarmes mobiles à côté.
On les a envoyés face aux agriculteurs.
Mais bien sûr. Dans l'Ariège, ça a bien impressionné les éleveurs.
Écoutez, on envoie ça face à des éleveurs qui souffrent et qui crèvent tous les trois jours, et on les envoie face aux voyous, face aux racailles. Donc moi, je dis simplement qu'il fallait les employer. Vous avez 50 centaures à Satory.
Qui décide de ne pas les employer? Qui décide de ne pas les déployer?
C'est le Premier ministre qui doit donner l'autorisation de les engager.
Donc c'est Sébastien Lecornu qui donne l'autorisation.
Je peux vous dire qu'à Versailles, ils n'étaient pas non plus envoyés place du marché où il y a eu des émeutes aussi, parce que la police a été aussi obligée à Versailles.
Vous voyez, un changement notable avec nous, c'est qu'on n'aura pas la main qui tremble. Et Jordan Bardella, Premier ministre, on aura l'engagement tout de suite. Ensuite, deuxième chose, et je vais très vite, vous avez en 2022 une loi qui a été proposée par Gérald Darmanin, la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, 15 milliards sur 5 ans, qui a créé 5 compagnies républicaines de sécurité de nouvelle génération, ce qu'on appelle les unités de projection rapide. La CRS 8, vous la connaissez, la CRS de Montauban, la 84, la CRS de Marseille, de Lyon et de Nantes, chacune avec un numéro. Pourquoi elles n'ont pas été toutes engagées sur la capitale? Parce que, comme vous l'avez dit, les rues sont exiguës, les voyous sont très mobiles, ils jouent avec les forces de l'ordre, ils tirent des mortiers.
Donc,
sont des unités, mais qui sont spécialisées dans les violences urbaines.
C'est un qu'on aurait dû utiliser.
Mais à Nantes, je sais qu'elle a été déployée, mais on aurait pu mettre une CRS traditionnelle. Et à Marseille, à Lyon et à Montauban, elles n'ont pas été engagées. Pire, vous savez que pour le concert de Jul à Marseille, il y a eu 7 compagnies de CRS engagées avec 2 canons à eau, 2 engins lanceurs d'eau qui dépendent des sections des moyens spécialisés des CRS. Pourquoi on met une armada sécuritaire pour le concert de Jul qui fait un pognon de dingue et qui aurait pu mettre un redoublement de la sécurité autour du stade
et les canons à eau n'ont pas été utilisés?
Il y a eu un canon à eau sur les Champs-Élysées aux côtés des gendarmes qui vient sur
de Saint-Cloud par exemple,
il y en avait un hier de la préfecture de police de Paris, mais effectivement, vous avez une section des moyens spécialisés à Vélizy, c'est là où sont entreposés les canons à eau des CRS, donc à moins de 20 minutes de Paris. Il y en a une aussi à Béthune, il y en a une aussi à Lyon, et nous on en créera même une à Marseille, parce qu'en fait il faut que dans chaque zone de défense on ait des canons à eau qui sont un des outils les plus utilisés. L'Allemagne, la Belgique en utilise plein.
Et comment est-ce que vous empêcherez par exemple l'envahissement du périphérique? Comment est-ce que, si le Rassemblement National est élu en 2027, vous empêcherez ces jeunes de débouler dans Paris, de tout casser, et notamment d'envahir le périph'?
Ici, là, ça sera une voie piétonne, tu sais.
À moitié piétonne.
Non, mais concrètement, parce que les gens, comme dirait Monsieur Macron, on en a ras-le-bol.
Oui, non, mais d'accord, mais ça, c'est des mots, il faut des actes.
Oui,
je vous réponds très simplement, on a un outil que le préfet l'Allemand a créé, il n'a pas fait que des choses bien, mais ça, je reconnais que c'est une mesure que nous soutenons. Il a créé les brigades de répression d'action violente à moto, les fameuses Braves Mike, que tout le monde connaît, on dit Mike, parce que c'est le jargon militaire, avec la lettre qu'on appelle comme ça.
Oui,
qui ont été déployés, mais nous, on va les renforcer. Parce que dans une capitale qui est asphyxiée par la circulation, asphyxiée par les transports, asphyxiée dans ces moments-là par une densité de personnes, et c'est normal, qui, lorsqu'elles viennent pour fêter une victoire, lorsqu'elles viennent faire la fête, et elles sont évidemment légitimes à venir, eh ben, ces braves, elles se déplacent rapidement, elles se projettent rapidement, elles mettent à terre des opérateurs qui sont des jeunes gardiens de la paix, qui, pour la majorité, sortent d'école, et qui permettent, comme ils l'ont fait, sur l'envahissement du périphérique samedi, de l'évacuer, mais même avant, on peut positionner ces braves Mike sur les portes, comme Maillot, comme Auteuil, comme Saint-Cloud, comme La Muette, qui en fait sont des voies d'accès pour les motards, parce qu'il y a beaucoup de motos sans casque et les jeunes. Bah, non, mais ça a été fait tardivement, ils n'étaient pas assez nombreux. Il faut que, en fait, la politique de sécurité ne se décide pas à l'aube d'un événement planétaire ou d'un événement européen ou national. Elle se discute, elle se met en place dès l'élection.
Mais il y a aussi la réponse judiciaire. On va suivre les premières comparutions immédiates cet après-midi.
Est-ce que je peux juste vous dire une chose? Il y a des policiers qui ont été rappelés. très bien. Moi, je sais parfaitement que lorsqu'ils sont rappelés pour faire respecter la loi et que force doit rester à la loi, ils viennent bien volontiers. Sauf que ils n'ont pas de casque individuel. Donc nous, aux responsabilités, on dotera chaque policier de commissariat. J'entends, hein, pas des CRS ou des escadrons de gendarmerie qui en ont évidemment, c'est leur cœur de métier. Mais chaque policier de commissariat aura un casque neuf, attribué individuellement pour sa carrière. Vous savez qu'en école de police, vous avez une paire de menottes qui vous est attribuée pour votre carrière. Pourquoi pas un casque aujourd'hui, alors qu'on sait que les tirs de mortier, les projectiles, c'est leur quotidien. Ensuite, il n'y avait pas assez de cotes de protection. Je veux que chaque policier soit doté d'une cote BAC, c'est-à-dire d'une cote renforcée qui protège les bras. Vous trouvez normal que des policiers sur le terrain face à des voyous qui les pilonnent au mortier avec ce que j'appelle des sulfateuses à mortier et les bras à découvert et qui sont blessés grèvement.
Oui, oui, oui. Vous parlez des mortiers, mais
donc voilà. Un casque, oui, d'accord, une cote BAC. Ben non, mais c'est important.
Il n'y a jamais eu autant de mortiers utilisés
en état de marche.
Il n'y a jamais eu autant de mortiers d'artifice utilisés. Pourtant, ils sont censés être interdits à la vente. Donc, on voit bien qu'on prend des mesures, mais non, ça n'empêche pas certains de s'en procurer. Alors qu'est-ce que vous feriez au pouvoir?
Mais vous savez que depuis que je suis syndicaliste et quand je l'ai été, je venais sur vos plateaux pour dire qu'il fallait délictualiser le port de mortier. Enfin franchement, on m'a dit oui, mais dans ce cas-là, on va aussi interdire les couteaux. Non mais je comprends bien que l'ouvrier qui a son couteau pour se faire sa gamelle le midi, c'est pas un criminel. Par contre, pour faire la cuisine, vous avez besoin d'un couteau. Par contre, dites-moi, vous vous en croisez souvent des gens qui ont des mortiers pour aller faire de la cuisine, pour aller à l'école ou pour faire des loisirs?
C'est un autre mortier.
Ah bah oui, non mais d'accord, mais ils sont pas là pour faire le feu d'artifice de Disneyland Paris. Lorsqu'ils ont des mortiers, notamment dans les quartier, parce que vous le découvrez peut-être ce matin, mais ça fait longtemps que dans les cités,
comment on fait pour interdire ça?
Il faut en faire un délit. Aujourd'hui, c'est un arrêté qui interdit ce port de mortier qui souvent sont menés à la destruction, c'est très bien, mais moi je souhaite, et dans le cadre du projet de loi Riposte de Laurent Nunez, que nous voterons sur cette mesure-là, c'est interdire le port des mortiers et en faire un délit. Comme ça, c'est simple, t'as un mortier sur toi, tu termines en garde à vue et t'as des comptes à rendre à la justice. On peut pas laisser des gens avec des engins pyrotechniques là, pour brûler des policiers ou leur faire perdre des yeux. Un mortier, ça peut figure un policier ou un gendarme.
800 interpellations, c'est beaucoup, mais on ne sait jamais vraiment si on a pris les bons. Ce qui est intéressant, c'est de voir au bout de la chaîne judiciaire combien seront véritablement sanctionnés.
D'ailleurs,
on a les chiffres de l'année dernière, c'est très peu en fait. La plupart sont libérés sans poursuite. Pourquoi? Non, mais
d'ailleurs, j'ai un petit mot. J'ai écouté Laure Bécuot, la procureure de Paris sur BFM TV. Elle nous en a fait une belle, quand même. Elle a quand même réussi à nous dire des violences policières au lieu de dire des violences contre les policiers. Enfin, les mots ont un sens, surtout quand vous représentez l'action publique au sein du parquet de Paris. Non, mais d'accord. J'espère qu'il n'y a pas un entrisme gauchiste, dans certains magistrats qui sont censés poursuivre, les auteurs d'infractions. Et quand on sait que les 11 comparutions immédiates qu'elle a annoncées, Madame Bécuot, ce matin. 11 comparutions immédiates.
Des violences contre les policiers.
C'est-à-dire que les CI, c'est pas rien. C'est-à-dire que le parquet, qui représente, je vous rappelle, nos intérêts, les intérêts de la société, estime qu'il y a des charges suffisamment lourdes et caractérisées pour poursuivre la personne en comparution immédiate, qui soit les juger tout de suite, soit demande un temps pour préparer sa défense, auquel cas, les statués sont faits que soit les placer sous contrôle judiciaire, soit en détention provisoire. Moi, j'estime que si vous passez en comparution immédiate pour des attaques des policiers, soit vous êtes jugé tout de suite, c'est caractérisé, le tribunal rentre en votre condamnation et vous allez en prison tout de suite derrière, c'est les fameuses courtes peines qu'on va mettre en place. Et s'il demande un temps pour préparer la défense, c'est le code de procédure pénale, c'est pas un contrôle judiciaire, c'est une détention provisoire qui doit être décidée. Parce que, au plus vous laissez l'impunité s'installer, au plus vous laissez croire que la banalisation, c'est normal de tirer des mortiers et de frapper des policiers et des gendarmes, au plus vous avez le résultat qu'on a eu dans la nuit de samedi à dimanche.
Mais, qui sont-ils, en fait, ces jeunes? Parce que on dit ouais, on retrouve toujours les mêmes ou quoi que ça, mais parce que moi j'habite pas très loin du Parc des Princes, il y avait vraiment les supporters que l'on voyait, et puis de temps en temps on voyait des grappes qui arrivaient, qui n'allaient pas au match, bien sûr, qui n'étaient pas à la terrasse des bars pour regarder le match, qui n'étaient même pas sur leur portable pour regarder le match et qui attendaient, la fin du match.
À la Marchal, vous habitez à Paris.
Qui sont-ils alors?
Il y avait plein de bars qui étaient open bar sans faire de jeu de mots, avec les terrasses ouvertes à côté de chez moi. Il y avait deux bars ouverts et on pouvait même regarder le match sans consommer de l'extérieur.
Oui, mais d'où viennent-ils?
Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de téléphone portable pour regarder le match. Moi, j'ai beaucoup de policiers et gendarmes avant le match qui m'ont dit on a beaucoup de profils à risque qu'on connaît, et dans les contrôles d'identité, il y en a eu un peu plus de 1600 qui ont été menés avant le match. On a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes issus de la banlieue parisienne, et que on s'attendait à des troubles parce que l'année dernière c'était la même chose, et que moi j'espère que dans les profils des interpellés on va savoir s'il y a beaucoup de Kevin et Matteo, ou si au contraire on a d'autres profils, puisqu'on a été prompt, le ministre de l'Intérieur à l'époque a été prompt à donner les profils après la Ligue des Champions face à Liverpool, où on nous a expliqué que le problème c'était les Anglais. Donc moi j'attends de voir les profils.
Il s'est excusé.
Ah oui, mais tout le monde s'excuse, mais en attendant c'est les Français qui rinquent.
Mais c'est vrai
et qui
trinquent. Chaque année on dit à peu près la même chose. plus jamais ça, on sera traitable.
Oui, bah, parce que chaque année, on a le même président de la République et le même gouvernement, peut-être, j'en sais rien, mais la réalité, c'est que nous,
oui,
on
mais a attention, si vous êtes nouveau voir l'année prochaine, et s'il y a une nouvelle finale avec le Paris Saint-Germain, ce que je souhaite personnellement.
Pareil. Moi, j'étais très content que le PSG gagne.
Back to back. Bah, alors là, vous serez jugé sur pièce.
Mais, alors, Mathieu Vallée, vous restez avec nous.
Mais d'ailleurs, j'espère que d'autres responsables politiques feront le même exercice que je fais ce matin. J'entends aucun autre parti politique être aussi technique, pardon, d'être prétentieux et d'être aussi précis sur les propositions, sur le dispositif sécuritaire, sur les équipements. Pardon, mais on l'avait déjà dit sur votre plateau, moi j'ai très bonne mémoire, hein. Je suis peut-être pas bon en maths, mais je suis bon en mémoire. La réalité, c'est que...
Vous ne serez pas ministre de l'économie, du coup qui...
Non, le budget, j'ai... Enfin, quoi que si, vous savez, dans la police, comme les commissaires et les brigades de gendarmerie sont en piteux état, on apprend à faire les comptes, même si j'ai pas fait maths sup. Mais la réalité, c'est que... les cartouches de LBD, elles sont beaucoup moins puissantes depuis que Castaner a décidé de les changer et de faire en sorte qu'elles soient moins impactantes. Quand vous avez quelqu'un qui vous tire un mortier...
C'est quand même mieux, les cartouches de LBD. Quand ça crevait les yeux des gilets jaunes, on n'était quand même pas joyeux.
Non, mais là, Charles Grosny, qui était candidat des Républicains, ben, proche de Valérie Pécresse, la chambre de rétablissement de l'ordre, dire que les policiers crevaient les...
La chambre de quoi?
Bah, de rétablissement de l'ordre, du respect de l'ordre. Non, vous avez peut-être changé depuis
les gilets jaunes, non?
Non, mais les... Ça n'a pas échappé.
Non, mais les gilets jaunes qui ont eu un œil crevé, je pense qu'ils...
Parce que vous croyez vraiment qu'on a des policiers et gendarmes qui s'éclataient et qui buvaient une bière en croyant qu'ils sont venus pour éclater des yeux ou des visages.
Bah, dites-le aux gilets jaunes qui ont perdu un œil pendant les manifs.
Bah, je vous dis simplement aux gilets jaunes honnêtes qui venaient défiler dans nos rues que l'extrême gauche a volé leur manifestation et qu'ils ont saccagé leurs revendications. Alors, et que quand vous avez, Charles Consigny, mais c'est une remarque que je prends évidemment sérieusement, les LBD, c'est pas fait pour crever les yeux et défigurer les gens. C'est fait pour protéger l'intégrité physique des policiers et gendarmes, pardon, qui comptent aussi, lorsqu'ils se font jeter des cocktails Molotov, lorsqu'ils se font tirer des mortiers, et qui permet d'éviter l'usage de l'arme à feu.
La meilleure arme possible.
Pour ça, moi, je vais
vous avez défendu Valérie Pécresse, pardon.
Arrêtez de me parler de Pécresse.
Vous gêne d'avoir défendu même Pécresse. C'était en 2022, c'était pas il y a 10 ans.
4 ans.
Bah, vous avez même été candidat sous sa couleur politique, les Républicains. Vous défendez l'ordre public. Donc ça m'étonne que vous accablez les policiers et les gendarmes et que vous stigmatisez la profession.
Pourquoi vous abêtissez comme ça notre échange? J'essaye de vous dire simplement et pragmatiquement.
Mais vous trouvez pas normal que lorsqu'un policier va se faire tirer dessus au cocktail Molotov avec une arme de guerre, le policier puisse riposter avec un LBD qui soit efficace plutôt que des cartouches qui viennent du magasin Jouet Club?
Je dis juste que le LBD 40 dans des manifestations, il y a beaucoup de monde.
C'est pas une manifestation hier, hein, c'est des violences urbaines.
On a vu,
pas pareil.
Je n'excuse pas du tout ce qui s'est passé.
J'ai
hier,
pas dit
bien
ça.
Au contraire.
Je vous dis que c'est pas le même cadre.
Mais alors, on a simplement vu ce que ça donnait sur les gilets jaunes, c'est tout.
Non mais Charles Consigny, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a changé les grenades des gendarmes après Sivens, les Gli F4 par des GM2L. Ça veut dire des grenades moins puissantes. Mais à chaque fois que vous désarmez la police, vous rarmez les voyous en face. Moi, je ne demande pas qu'on fasse une boucherie ou un carnage, mais au bout d'un moment, lorsqu'on utilise la force, c'est pas pour faire des images dans le manège enchanté de Pollux. Donc voilà, la réalité, c'est que c'est ça. L'ordre public, c'est sérieux, et l'ordre public, c'est pas fait pour faire des belles images.
Mathieu
c'est
Vallée,
fait pour que force reste à la loi.
Mathieu Vallée, ancien commissaire de police, député Rassemblement National, député européen, reste avec nous. On revient sur les violences et la manière dont aujourd'hui il faut revoir le maintien de l'ordre. Avec les GG, avec les grandes gueules, question dans un instant de Barbara Lefebvre et Laura Barton-Martinez. Il est 11h20. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
On continue notre discussion avec Mathieu Vallée. Mathieu Vallée, il est élu du Rassemblement National, il est député européen, c'est ancien commissaire de police. Et on revient avec lui sur le maintien de l'ordre. Que faut-il faire pour qu'on ait un après-match ou une fête ou une manifestation qui se passe correctement? Alors, question, Barbara Lefebvre, Charles Consigny, Laura Barton-Martinez. Barbara, réflexion.
Non mais une réflexion. Est-ce que vous ne pensez pas également que dans votre arsenal répressif, là vous nous avez beaucoup parlé de la question de la répression immédiate au moment du maintien de l'ordre, lorsque, enfin, en prévention et au moment des faits, mais ensuite une fois que destructions ont eu lieu, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut monter jusqu'à la sanction pécuniaire des parents, puisque la plupart sont soit mineurs, soit vivants, soit majeurs à la charge des parents, hein, puisqu'en général tout ce petit monde reste chez papa-maman. Est-ce qu'il ne faudrait pas remonter vers les parents et imposer des sanctions financières, y compris pour des familles qui, souvent, hein, sont assez modestes, peut-être, ben, ça veut dire lever des allocations ou bien pris sur salaire ou sur allocation, le temps de rembourser ce qu'ont fait leur progéniture.
Oui, il faut tout saisir. Si la justice établit une condamnation liée à des dégradations, un abribus, un véhicule brûlé, un service public, on l'a vu lors des émeutes après Naël, des commissariats, des hôtels de ville, des écoles, des bibliothèques brûlées, oui, moi je pense que c'est casseur-payeur. Alors avec Gabriel Attal, c'était tu casses, tu payes. Mais visiblement, il n'y a pas eu beaucoup de paiements. Hein. Je ne sais pas s'il a perdu son terminal de paiement, mais ça n'a pas beaucoup rentré d'argent. Les émeutes après Naël, 1 milliard. Vous l'avez beaucoup pour certains oubliés, mais en Nouvelle-Calédonie, 1 milliard aussi. Mmh. Là, on verra les dégâts de l'année dernière et cette année cumulée, combien ça fait suite à la victoire du PSG.
Attends, on va pas chiffrer maintenant. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc on sait jamais, ça peut encore.
Oui, bah, j'espère qu'elle se passera bien et que l'équipe de France la remportera, mais.
Bah, justement, la réalité,
c'est que moi, je suis pour qu'on saisisse les allocations, les aides, qu'on exclue des logements sociaux. Bah, les familles dont les enfants sont délinquants, parce que quand on
mais
a
ça
la solidarité
c'est cassé par le tribunal. Après, vous avez vu dans les cas où ça a été, où le préfet l'a demandé.
Eh ben, j'ai vu le préfet du Val d'Oise qui a été jusqu'au bout et des familles ont été expulsées, mais c'est bien trop peu par rapport à ce qu'on pourrait faire.
Je suis d'accord avec vous, mais dans d'autres préfectures, le tribunal administratif a cassé la demande du préfet.
C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une loi qui sécurise les préfets, parce que les préfets sont courageux et vont jusqu'au bout. Je pense avec Moutou, le préfet de la région Centre-Val de Loire, qui fait un boulot exceptionnel. Il l'a montré à Montpellier, il l'a montré aussi à Nice, l'ancien secrétaire général du ministère intérieur.
Volonté.
Bien sûr, mais il faut qu'on appuie ces préfets qui veulent en fait faire en sorte que les gens honnêtes aient accès à tout et que les gens malhonnêtes n'aient accès à rien et ne touchent pas la solidarité nationale. En tout cas, rembourse les dingueries des gamins qu'ils ont fait et qu'ils doivent éduquer.
Certains commerçants parisiens en étaient à espérer une défaite du PSG.
Non, mais qui gagne ou qui perd, pourrait être le bordel. Enfin, pardon, mais...
Moins. Je pense qu'il y aurait eu moins d'explosions.
Mais ils étaient déjà là.
Juste pas une défaite à côté avant le match.
Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il faudrait finalement, puisqu'on n'est pas capable d'assurer le maintien de l'ordre, interdire ces manifestations de joie, tant pis pour tout le monde. Bah voilà.
Oui, non,
chacun la maison.
Pas, désolé,
une espèce de couvre-feu.
Mais c'est ce qui était prévu. Pourquoi on a fait le champ de Mars alors que le champ de Mars c'était si vous êtes pas sage samedi soir, il y aura pas de champ de Mars. Ah si, c'est ce qui avait été dit. Je suis désolé.
Il y aurait une sorte de couvre-feu le samedi soir.
On va pas s'interdire de faire la fête parce qu'on a des casseurs et des voyous professionnels qui viennent voler la fête des honnêtes gens. Il n'y a pas une femme et une famille sur les Champs-Élysées, sur Trocadéro, sur Concorde, sur Châtelet, sur le Champ de Mars samedi soir. Mais c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un manque de volonté.
Si on n'y arrive pas, il y a un manque de volonté aujourd'hui, c'est qu'on n'y arrive pas.
Non, on ne peut pas le faire, c'est pas pareil.
Je suis désolé, monsieur Truchot, mais on sait pas qu'on n'y arrive pas. On a un outil d'excellence en
Belgique,
en Belgique, en Allemagne.
Vous imaginez l'image pour Paris
n'existe pas. On a un outil d'ordre public d'excellence, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut donner les bonnes instructions avec des dispositifs qui soit plus répressif avec les bons outils, les bons moyens, au bon endroit.
On n'y arrive pas.
Pas
à chaque fois, on dit on va faire ça, mais ça ne fonctionne pas.
Je pense qu'il n'y a aucun autre politique qui fait ça.
Elon Musk a tweeté sur les événements.
Oui, bon,
Elon Musk, il est suivi par.
Minneapolis, Los Angeles, aux États-Unis. Il y a souvent beaucoup de morts après des épisodes de violences urbaines. Je pense qu'en France, on n'a aucune chance de recevoir de personne.
Oui, mais sauf que le mal est fait, c'est-à-dire que lui, c'est des millions de gens qui le suivent. L'image qu'on donne de Paris et de la France.
Oui, on est d'accord. Il a raison sur ça. Mais bien sûr.
Catastrophique. Non,
mais...
Oui, bah, alors, comme les pickpockets.
Hein. Elon Musk a raison de dire, mais pas parce que c'est Elon Musk, parce qu'il a une visibilité.
C'est l'audience qu'il a.
Il suffisait de regarder la presse internationale ce matin. Évidemment que là où nous, on s'habitue à ces violences et à ce que chaque fête, la fête de la musique, vous avez dit la Coupe du Monde qui démarre le 11 juin, mais aussi le 14 juillet, mais aussi le 31 décembre, c'est qu'il y a, rappelez-vous, c'était 90 000 policiers et gendarmes. Donc c'est pas ce que je dis au début de l'arithmétique. Mais oui, vous avez raison, on s'habitue à des violences, à un climat éruptif et insurrectionnel sur des événements sportifs.
Mais pourquoi ça se passe bien au JO et ça se passe mal pour le Paris Saint-Germain?
Vous voulez que je vous rappelle je veux bien vous faire ici le récapépète des JO, mais il y avait 55 000 policiers et gendarmes par jour. Paris était sous cloche. Il y avait la loi SILT, vous savez, la loi sur la lutte contre le terrorisme qui permet de mettre des périmètres en place, avec des corridors, avec des zones, avec des badgeages, avec des QR codes. Mais non, mais c'est pas possible à chaque événement de faire ça, en
Monsieur
fait.
Valet.
On va pas vivre sous cloche parce qu'on n'est pas capable, et sécuritairement et judiciairement, de mettre en rétention des voyous.
Finalement, on accepte un peu qu'il y ait de la casse. On accepte qu'il y ait de la casse.
Mais il n'y a pas besoin d'accepter qu'il y ait de la casse. Il faut qu'on accepte que les policiers et les gendarmes, ils aillent au contact, ils aillent interpeller, et qu'il y ait parfois des mauvaises images.
D'accord, mais c'est un gamin qui va au tapis, un gamin de 15 ans
Monsieur
qui va au tapis. Qui est grièvement blessé ou qui
oui, mais enfin, mais dans ce cas-là, alors je prends votre raisonnement à l'envers. On va avoir peur de tout et on va avoir la trouille.
C'est pas ça, c'est qu'on préfère qu'il y ait de la casse matérielle plutôt qu'un gamin au tapis.
Okay. Donc je vous réponds, Barbara, mais on fait plus de refus d'obtempérer parce qu'il y a l'affaire Naël.
On suit plus les voyous parce qu'ils peuvent sauter dans la Seine ou dans un cours d'eau qui pourrait se noyer. On fait plus de match and lord parce qu'il pourrait avoir un gamin au tapis. Mais dans ce cas-là, si tu fais pas de refus d'obtempérer, si tu viens pas pour casser, si tu viens pas pour faire du flic, si tu viens pas pour foutre le bordel, eh ben y a pas de problème avec la police, la gendarmerie, ça se passe bien. Moi, je viens d'un quartier populaire. Ma mère m'a élevé toute seule et on vivait pas sur l'or. On n'était pas Crésus. Est-ce que je suis devenu un vaurien qui en fait saccage les commerces, frappe, casse les policiers, tire des mortiers? Non, parce que j'ai été éduqué. Ma mère surveillait mes fréquentations, je faisais mes devoirs, j'en prenais une quand j'étais pas sage, et j'ai été bien éduqué, je m'en suis bien sorti. On a le plus beau pays du monde. L'école est gratuite, le logement bénéficie d'aides personnalisées au logement, les APL, le logement social pour les plus démunis, on a l'école qui est gratuite. Non mais c'est bon quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter de se plaindre, arrêter de se dire que on est tous des victimes et que l'État ne fait rien. Qu'est-ce que nous on peut faire pour notre République? C'est ça qu'il faut se demander, c'est le logiciel des gens qu'il faut changer.
Alors,
aussi.
Respirez Mathieu, il y a
pas de mais question. Ça me prend en trip parce que oui, au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts. Les parents qui font des gosses, il faut qu'ils les assument.
La culture
si
de l'excuse, on en a marre.
Et puis c'est tout. Bah non, mais bon.
Monsieur Vallet, si en mai 2027, le Rassemblement National est élu et qu'il y a des émeutes qui sont poussées d'ailleurs déjà par certains élus qui invitent la population à des émeutes, ça, ce sera multiplié par 100, par 200. Ce niveau d'émeute. Et que la police, à ce moment-là, ne sera pas encore sous l'autorité du Rassemblement National fraîchement élu, mais sera sous l'autorité du pouvoir en place. D'accord? Comment est-ce que vous espérez qu'on puisse s'en sortir si jamais ceux qui nous promettent des émeutes XXL se lâchent et lâchent tout ça?
Une fois arrivé au pouvoir, ça sera le chaos.
Vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des gens qui vont contester dans la rue ce qu'ils n'ont pas obtenu dans les urnes.
Mais c'est ce qu'ils nous annoncent, non?
C'est la France Insoumise. Moi, je peux vous dire que si c'est la France Insoumise qui gagnerait, je ne le crois pas, on n'irait pas contester dans la rue et foutre le bordelisation de la rue.
Je ne vous ai pas dit le contraire. Je dis juste, est-ce que vous voyez...
Paradoxalement, est-ce que le parti de l'ordre au pouvoir ne va pas créer le désordre? Voilà.
Ah, vous considérez que des gens qui votent pour un parti politique, ça crée un désordre dans une démocratie?
Non, c'est pas ça que j'ai dit.
Il faut faire comme en Corée du Nord ou en Chine.
C'est
surtout eux qu'il faut combattre. C'est les gens qui appellent à la violence, pas ceux qui appellent à ce que les citoyens s'expriment par les urnes.
Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas comme ça. Alain, Olivier, retournez ma question, c'est pas ça.
On fera pas Barbara de police politique. La police, elle est républicaine, quel que soit le pouvoir. Et les ordres, ils sont clairs.
C'est pas ça que je vous dis.
Comment on va faire? On engagera les forces de l'ordre.
Non, mais c'est pas ça. Oui, mais en amont, puisque quand vous allez, si vous gagnez les élections, le jour J, on va dire.
Le jour J, ça n'a pas nos responsabilités. Et voilà,
est-ce que quand on voit que la police aujourd'hui, les ordres qu'elle reçoit pour des petites émeutes, entre guillemets, du PSG, là, est-ce qu'on pourrait se dire que le pouvoir pourrait donner de nouveau des instructions trop légères à la police, mais que compte tenu d'une foule qui serait plus importante, vu qu'elle serait motivée par certains partis politiques, on aurait une situation d'insurrection grand danger.
Je ne pense pas qu'on ait un pays qui fasse une révolution après que les urnes se soient exprimées. Je pense que d'abord c'est pour ça qu'on va faire des référendums.
C'est déjà arrivé, c'est la commune
de Paris, mais les Français n'ont pas été conseillés par référendum depuis 2005.
Les communards, ils ont mis Paris à feu à sang.
Comment ça?
Les communards, ils ont mis Paris à feu à sang.
D'accord, mais
parce que les Français avaient voté pour une majorité monarchiste.
Oui, d'accord.
Bah oui, mais c'est 1871.
Au bout d'un moment, soit dans notre démocratie, on estime que c'est les urnes qui s'expriment, soit on arrête les urnes et on fait que la rue.
Je
vous réponds.
Vous voyez mais la réalité, qu'on a maintenant.
Non, mais la réalité, c'est que on aura un dispositif d'ordre que nous assurerons et dont je vous ai présenté ici les mesures et qu'on appliquera à chaque. Parce qu'en fait, pour terminer, c'était samedi soir des violences urbaines, comme on a dans les cités, comme on a eu après Naël, comme on a eu lors des gilets jaunes, notamment par l'extrême gauche et les extrêmes. Donc la réalité, c'est que c'est toujours le même mode d'action des policiers et des gendarmes. Donc la doctrine, elle vaut pour tous les scénarios. Mais je suis étonné que pour fêter un trophée, il y ait eu des émeutes. Merci. Pour une fois, il n'y a pas eu un prétexte policier d'intervention policière ou quoi que ce soit qui pourrait justifier, entre guillemets, quoi que ce soit ou légitimer des révoltes populaires comme l'appelle l'extrême gauche. Mais à force de mettre de l'huile sur les braises et le feu dans les quartiers comme la France Insoumise qu'ils n'ont pas appelé au calme après les émeutes de l'après-Naël, oui, on obtient les images de samedi soir.
Merci Mathieu Vallet, député Rassemblement National, ancien commissaire de police, d'avoir
c'était
été.
C'était sportif, heureusement que j'ai fait un peu de sport ce matin, mais c'était bien.
J'étais auto-sportif.
Dans les GG.
Pourquoi auto-sportif?
C'est vous-même qui vous êtes.
Je pense qu'il faut parler avec les tripes et les gens ont marre des discours. Qui sont formatés par Sciences Po et l'ENA. Moi, je suis formaté par le terrain et par.
Dans un instant, avec les GG, merci Mathieu Vallet.
Merci
dans un instant, avec les GG, une proposition qui prévoit de supprimer le secret de confession. Le secret de la confession dans les cas de violence sur les mineurs. Est-ce qu'il faut supprimer ces secrets de confession, oui ou non? Vous en discutez avec les GG, il est midi moins 25. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Laura Vartan-Martinet, Charles Consigny et Barbara Lefebvre. Terminons en évoquant le secret de la confession. Secret de la confession parce que c'est une proposition de loi qui veut lutter contre les violences à l'école. Et dans le cadre de cette PPL, comme on dit en termes parlementaires, eh bien, on propose de supprimer le secret de la confession lorsqu'il s'agit de violences contre les enfants, notamment.
Oui, c'est une proposition de loi issue de la commission d'enquête sur l'affaire Bétaram. Et comme souvent, vous savez, nos députés, sous le coup de l'émotion, aiment bien légiférer. Et peut-être sans avoir le recul nécessaire sur ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que disent les évêques en disant que c'est une grave erreur de supprimer le secret de la confession en cas de violence sur mineurs. Je lis notamment le témoignage, non pas d'un évêque, mais d'un homme qui s'appelle Grégory Turpin, qui est chanteur, qui a été victime d'abus quand il était enfant. Et lui, il dit au contraire, c'est méconnaître la façon dont naît la parole des victimes et la portée de la confession, lieu unique de vérité. Et ça serait une grave erreur de supprimer ce secret de la confession, parce que c'est peut-être le seul endroit où les victimes parleront un jour, et peut-être que le prêtre sera la seule personne qui pourra entendre cette parole, retirer cette garantie du secret, eh bien, ça veut dire peut-être que des gens ne parleront jamais. Est-ce que c'est pas une erreur de supprimer ce secret de la confession ?
Laura.
Alors écoutez, j'ai envie de dire que c'est mes deux combats. Je suis catholique pratiquante, je me confesse, je vais à l'église, je lis la Bible tous les matins. Et malgré tout ça, il le faut. Il faut que malheureusement le secret de la confession soit levé pour ce genre de pour ce genre d'acte.
Pourquoi ?
Parce que rien n'est au-dessus de la protection de nos enfants. Et je vais faire une phrase bateau digne d'une catho croyante, mais je pense que c'est ce que Dieu voudrait. Dieu voudrait que par n'importe quel moyen on puisse sauver ses enfants. La confession, elle est là pour nous soulager. Elle est pas là pour dissimuler un acte. Elle est là pour avoir le pardon de Dieu. Elle est pas là pour.
Mais on parle du secret de la confession. De quelle confession? Parce que je comprends pas. Hein? Parce que là, on imagine que tu parles des victimes, parce que tu parles de celui qui a commis acte de. Bon, tu penses que s'il y a plus de secret, il ira se confier.
Mais
je comprends pas l'efficacité du simplement mais, l'efficacité.
Mais
de
parce
lever
que tout simplement déjà.
Il faut supprimer le secret, mais sans leur dire.
Mais oui, c'est ça.
On leur fait croire qu'il y a encore.
Je vois pas l'intérêt.
Non, mais ça peut être dans les deux cas. Ça peut être un prêtre qui ne le dit pas, que lui dit moi le secret de la confession sera toujours en état, et puis qui quand il entendra ce genre de choses aura des actes à l'intérieur de sa paroisse. Ça peut être les victimes, effectivement, qui se confient. Et que sans que le prêtre fasse forcément une intervention policière, puisse mettre à mal la personne qui a ce genre d'acte au sein de l'église.
Donc la fin du. Oui, donc en fait, les gens n'iront plus se confesser, c'est ça que je veux dire.
Les victimes, si, elles n'auront rien à se reprocher. Puisque, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose
non,
de très.
Non, les victimes non plus, parce que. Mais non, parce que la victime, si elle pense que le prêtre peut aller raconter ce qu'elle est en train de dire, qu'elle n'a peut-être pas envie que le prêtre raconte, en tout cas, elle n'est pas prête.
Mais elle le dit à son prêtre. Mais je vais te dire une chose.
En fait, je ne crois que tu rends service ni à la victime.
Quand tu es violé, tu es déjà en premier état de lieu, d'abord tu es sous le choc, et en deuxième, tu penses que c'est de ta faute. Donc si tu es catholique pratiquante, la première chose que tu vas aller faire, ce qui a été mon cas, c'est d'aller me confesser auprès de mon prêtre, en lui disant j'ai tenté le péché, j'ai tenté ces hommes, c'est de ma faute ce qui m'est arrivé. Voilà ce que j'ai dit à mon prêtre. Donc oui, une victime, si elle est croyante, puisque de toute façon on ne parle que des victimes qui vont se confesser, elle en parlera. Je trouve que rien n'est mauvais pour libérer la parole. D'accord. Maintenant, c'est au prêtre d'être suffisamment intelligent pour que ça ne se sache pas, qu'on ne sache pas d'où ça vienne. Bah oui, mais bon.
Oui, Charles.
Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Laura. Je pense d'abord qu'il y a une certaine catophobie de la part des députés Renaissance qui sont à l'origine de cette de ce texte, puisque ça assimile évidemment la religion catholique et les croyants pratiquants à la pédophilie.
C'est M. Paul Vanier de LFI qui dirigeait la commission Bétaram, je te rappelle.
Oui, mais avec Violaine.
Avec Mme Spielbout. Non, mais je veux dire, il ne faut pas oublier.
C'est une coproduction.
C'est une coproduction LFI Renaissance.
Je trouve que ça crée un amalgame entre religion catholique et pratiquants catholiques et pédophilie. Et effectivement, je pense que par ailleurs, c'est une proposition stupide, puisqu'elle n'aboutira qu'à faire que les gens, tout simplement, ne parleront plus en confession de ce qui serait susceptible d'être dénoncé ensuite par le prêtre.
Et s'ils en parlent et que ça n'aboutit à rien, puisqu'on n'a pas le droit de les dénoncer, ça ne change rien, sauf qu'on est sûr d'aider personne.
Non, mais le prêtre, il peut dire à la victime, allez porter plainte. Et il peut dire aussi,
il peut dire
à la personne qui a commis des actes de pédocriminalité,
dénoncez-vous.
Allez vous dénoncer. Voilà.
Mais ça, il peut le faire tout de suite.
Je pense que c'est plus efficace que d'aller cafeter.
Ça, il peut le faire tout de suite parce qu'il suffit juste d'être un minimum intelligent. Moi, quand j'ai une victime qui vient me parler, ou même j'ai été en lycée et on m'a dit des choses très graves, c'est pas moi qui suis allée voir les personnes supérieures pour aller leur faire acte de ce qu'on venait de me dire. Je fais d'abord un travail avec la victime. Je fais d'abord un travail avec la victime. Maintenant, si tu as 10 enfants de cœur sur une église qui viennent et qui viennent dire la même chose, pardon, mais si le prêtre n'est pas capable de lui-même de faire en sorte que les choses bougent, il peut peut-être se référer à la
Le problème de ces députés, c'est que moi j'aimerais lire le texte de la proposition de loi parce que il y a déjà une situation aujourd'hui à la fois de jurisprudence et du code pénal. Il y a une jurisprudence qui assimile de longue date les ministres du culte à ce qu'on appelle des confidents nécessaires et que de ce fait ils sont tenus par le secret professionnel et ils n'ont pas ils ont des sanctions s'ils révèlent
excommunication.
Voilà. Non, mais même ça vaut aussi pour les rabbins, les imams et les pasteurs.
Là, hein. Mais là, c'est pas d'excommunication. Ils peuvent risquer l'excommunication puisque le secret sacramentel, ça s'appelle.
Voilà. Il y a l'article 226.13 du code pénal. Charles sera là pour le confirmer, qui met quand même des exceptions à ce secret professionnel. Aujourd'hui déjà, il n'y a pas besoin de cette loi. Les exceptions majeures au secret professionnel des ministres des cultes, c'est privation ou sévice infligé à un mineur de moins de 15 ans, infraction sexuelle sur mineur. Et quelqu'un qui vient et qui vous raconte qu'il a commis un crime ou bien qu'il a l'intention de commettre un crime. Ça peut être des attentats, etc. Ça, c'est trois possibilités pour un ministre du culte de se libérer du secret professionnel. C'est la conscience du prêtre, la conscience du pasteur, la conscience de l'imam ou du rabbin qui est de dire « je peux lever mon secret professionnel ». Donc moi, je trouve normal. La base, c'est il y a le secret professionnel des ministres du culte parce que ça permet de libérer la parole des victimes, voire de libérer la parole de certains criminels. Bon, s'il y en a qui ont envie de venir raconter leur crime pédophile, mais bon. Mais c'est surtout libérer la parole des victimes.
Il y en a qui le font.
C'est la responsabilité de l'individu comme ministre du culte de se libérer du secret professionnel puisque c'est permis par la loi. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent obliger les ministres du culte à faire des signalements article 40. Mais alors, on va avoir droit, peut-être que la personne.
Mais surtout, on pourra se retourner contre le prêtre qui ne
voilà.
l'a pas fait.
Voilà. Donc, encore une fois, c'est
Tout le monde s'insurge quand on dit qu'il y a des violences sexuelles qui sont cachées dans l'église.
Elles sont pas cachées.
Elles sont pas cachées. C'est la responsabilité du prêtre.
Pardon.
Il peut lever.
Quand tu regardes l'abbé Pierre, c'est exactement la même chose que tous les autres agresseurs. C'est-à-dire que tout le monde savait, mais on n'avait pas le droit de parler, nanani, nanana. Donc, en fait, tout le monde est toujours là à hurler en disant oui, mais les prêtres, sous le secret de la confession, organise un réseau de pédophiles. L'abbé Pierre, ça n'a rien à voir.
C'est l'institution qui, effectivement, a minimisé.
Et tu crois qu'il n'y avait aucun prêtre qui a reçu l'abbé Pierre en confession, qui a été au courant de ça?
C'est deux choses différentes.
Encore une fois, il s'est confessé, ça
concerne tous les ministres du culte. Déjà, c'est pour ça que, et Charles a raison là-dessus, le côté catophobie, moi, ça me gonfle. Je suis désolée. Une femme qui est victime d'un viol, par exemple, même d'un viol conjugal, et qui en parle à son rabbin, qui en parle à son imam, qui en parle à son pasteur, là on n'est pas dans l'église catholique, ce rabbin, cet imam ou ce pasteur, son secret professionnel, il peut choisir de le lever pour dire à cette femme, venez, on va porter plainte, vous avez été victime d'un crime.
Alors, donc dans certaines religions, déjà. Oui, sauf que dans certaines religions, ce crime n'existe pas. Tout comme violer une fillette de 12 ans à partir du moment où elle est mariée, ça n'existe pas, le viol.
Oui, non, mais le droit républicain prime sur le droit religieux, encore heureux. Alors, excuse-moi, ça existe peut-être pas dans leur culture, mais ils sont sous le coup de la loi de la République. Donc, si, pour eux, leur religion passe au-dessus des lois de la République, faut qu'ils aillent vivre dans un pays régi par des lois théocratiques, pas la France. Voilà.
Donc une proposition.
Pour moi, cette proposition de loi n'a pas de sens. Bah, elle peut passer puisqu'il y a la LFI qui est d'accord, il doit y avoir les écolos, il doit y avoir les socialistes, il doit y avoir la Renaissance. Donc à mon avis, elle peut passer. Voilà. Et surtout, commission Bétarame,
il y aurait. Oui, mais ça, c'est toujours le problème de vouloir légiférer sous le coup de l'émotion. Il s'est passé quelque chose qui nous a tous émus, l'affaire Bétara, mais derrière, on croit nécessaire qu'il faut.
Mais vous proposez quoi, du coup?
Mais pour moi, c'est pas sous le coup d'émotion,
c'est vraiment. Tout existe, il suffit d'appliquer la loi.
C'est une croisade anti-cato, c'est tout.
Pas du tout, puisque là-bas, moi, je suis d'accord, et pourtant, je suis ultra-cato.
C'est la vieille détestation.
On va regarder ce que vous en pensez. On a posé la question sur les réseaux sociaux.
Moi, je suis ultra-catho et pourtant, tu peux pas
m'accuser de faire la croisade. Est-ce qu'il faut abolir le secret de la confession? On a posé la question sur les réseaux sociaux.
Déjà aboli.
Vous mettez non à 66%, presque 67%. On se retrouve demain avec les GG. Tiens, Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise, sera avec les GG.
Je suis pas là.
Avec Zora Habitant, avec Jean-Loup Bonamy. Et on aura l'homme qui compte 4 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. C'est un créateur de contenu, il va faire les 3 heures avec les grandes gueules. C'est Sam Zira qui sera avec les GG, avec les grandes gueules. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Bien sûr, dans Estelle Midi, on va parler du sacre du Paris Saint-Germain. Mais que retenez-vous en priorité? Le deuxième titre européen du PSG ou les violences? Bah écoutez, on en parle avec vous dans un instant. Au 32-16, on parlera aussi de ces images qui ont suscité la polémique. Des images de Carl Olive, député des Yvelines, qui monte sur le capot d'une voiture pour célébrer le sacre du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous trouvez ça bon enfant de la part d'un député?
Non. Oh, mais
totalement
c'est génial.
Ça, ce sera à 12h30, à 13h30. Est-ce que vous avez vu le choc fiscal proposé par le député Renaissance, Pierre Cazeneuve?
Ça va faire plaisir.
Alors, là-dedans, il y a le retour de la taxe d'habitation, les donations facilitées entre les grands-parents
CSG,
et les enfants.
Et la TVA aussi.
Et la TVA à 22%.
Ah ouais, non, est-ce
qu'une TVA... Oui, mais ça veut dire qu'en fait, tout le monde la paye, la TVA.
Oui,
c'est pas que les actifs, c'est pas que les impôts, les actifs. Les retraités payent la TVA.
Mais c'est pas une bonne idée d'augmenter les impôts. Tous très peu d'impôts.
Oui, mais du coup, on baisserait quand même les charges.
Il n'y a pas trop d'inflation, ce serait
bien. Monsieur Cazeneuve est un génie.
Les actifs, en tout cas, auraient plus de pouvoir d'achat. Est-ce qu'une TVA à 22%...
Ça ferait 200 euros par personne,
ouais,
c'est ça, à peu près.
Mais le problème, c'est qu'il augmente aussi
comme
la CSG.
Tu augmentes à côté.
Oui, mais tu augmentes pour tout le monde.
Ah oui, mais faut bien réparer ce que certains cassent, puisque c'est pas tu casses, tu répares.
D'accord.
Exactement.
C'est Nicolas répare ce que les autres cassent.
Nous sommes le 1er juin, donc on s'approche doucement, mais sûrement, des vacances d'été. Pour vous, les vacances d'été, vous savez, avec randonnée, visite au musée, parc aquatique,
les
vacances
d'été.
Actives. Est-ce que pour vous, c'est l'enfer ou le paradis? Vous savez, on connaît tous des gens qui ne tiennent pas en place pendant les vacances, alors que toi, t'as juste envie de te dorer la pilule sur la plage. Mais écoutez, vous nous appelez pour nous dire quel type de vacances vous préférez.
Tu préfères?
On va parler de soupe froide ou soupe chaude.
Margarita. Chaude.
Soupe chaude.
Margarita, c'est des légumes. Mais tu mixes.
Ça, c'est une pizza, un petit gaspacho.
Oh, mais il n'y en a qu'une.
Non.
Il y a une soupe froide.
Une petit pois.
C'est pas une soupe de concombre.
La volouté de petit pois, mais c'est excellent. Ben quoi? La soupe de concombre, c'est hyper bon.
On a plus faim.
Une soupe.
Bah si, c'est une soupe. Bah c'est du jus.
Allez, 32-16 pour réagir avec Estelle.